J'ai l'impression qu'on avance un peu comme les cheveux, c'est-à-dire qu'on ne voit jamais que les cheveux poussent. Et donc, on ne peut pas voir l'impact de ce qu'on fait immédiatement. Mais il faut y croire.
Bonjour, je m'appelle Shauna Van Praagh. Je suis présidente de la Commission du droit du Canada. Bienvenue à Obiter, un balado qui présente des discussions avec des personnes qui vivent le droit, poursuivent la justice et renouvelle l'espoir de manière créative, colorée et complexe. Le mot « obiter » ou l'expression « obiter dicta » se réfère à des mots qui sont considérés comme pas essentiels à un jugement en droit. Cependant, les passages d'abord qualifiés d'obiter deviennent parfois les plus importants ou les plus durables. Inspiré par la notion qui lui donne son nom, le balado obiter met en lumière ce qui pourrait être manqué ou invisible dans l'évolution du droit. En présentant aux auditeurs une riche intersection d'individus, d'idées et de questions, obiter vous invite dans les nombreux espaces dans lesquels le droit opère, évolue et donne de l'espoir. À travers des conversations avec des invités qui apportent un large éventail d'expériences et d'intérêts liés au droit et à la justice, Obiter présente la réforme du droit comme un engagement collectif qui prend de nombreuses formes, fonctions et directions. Dans cet épisode, nous vous proposons une discussion avec Kim Thuy, juriste, écrivaine, restauratrice, animatrice et j'en passe.
L'optimisme, pour moi, c'est une discipline. On doit chercher dans cette noirceur-là une lumière et faire grandir cette lumière-là. Et notre tâche à nous, c'est d'offrir une plus grande lumière. Et si chacun en faisait cet exercice-là, tout le monde va avoir de l'espoir ensemble.
Kim Thuy n'avait que 10 ans lorsqu'elle entreprit un voyage éprouvant avec ses parents et ses deux frères pour échapper au régime communiste répressif du Vietnam. Entassés dans une embarcation de fortune, ils ont rejoint plus d'un million de réfugiés vietnamiens prêts à tout, même à affronter les dangers de la mer, pour gagner leur liberté et écrire un nouveau chapitre de leur vie. Après avoir vécu quelque temps dans un camp de réfugiés géré par les Nations Unies en Malaisie, sa famille s'est finalement établie dans la ville de Granby, dans l'Estrie, au Québec, à la fin des années 70. Plus tard, Kim Thuy a poursuivi des études en traduction et en droit avant de mener une carrière variée et exceptionnelle, incluant des chapitres en tant que juriste, interprète et même restauratrice. Mais c'est grâce à sa plume qu'elle s'est fait connaître sur la scène internationale. On lui doit des ouvrages comme « Vie, M, Mian, À toi » et « Rue ». Rue, d'ailleurs, lui a valu le prix littéraire du gouverneur général en 2010. Ses romans ont été traduits en 29 langues, distribués dans 40 pays et vendus à plus de 800 000 exemplaires. Ses récits intimes, porteurs de lumière et d'espoir, nous mènent à réfléchir au thème de l'exil, de l'appartenance et du vivre ensemble. Nous remercions Kim Thuy d'avoir accepté notre invitation pour participer à ce balado. Bonjour Kim, bienvenue. C'est un vrai plaisir et un vrai honneur de vous recevoir aujourd'hui.
Merci, merci beaucoup de me donner encore le qualificatif juriste parce qu'il me semble que je suis vraiment, vraiment loin. Et quand vous avez parlé de obiter, je me souviens la première fois dans le cours où on nous expliquait c'était quoi un obiter, j'étais « Ah, on réalise pas à quel point justement toutes ces lignes ou tous ces paragraphes, tous ces espaces, en fait, même entre les lignes sont importants pour pouvoir comprendre le texte, la décision, le raisonnement.
Oui, oui, c'est ça pour les étudiants en droit. C'est quelque chose où, au début, ils sont invités à mettre à côté. Puis finalement, ils voient, non, non, ça, c'est vraiment important. Si vous acceptez, j'aimerais débuter d'une manière un peu surprenante, un peu comme promis par Obiter, en vous posant une question sur votre livre de cuisine, pour commencer, « Le secret des Vietnamiennes ».
Oh.
Je commence là parce que, en me préparant pour cette conversation, j'étais dans ma propre cuisine, puis votre visage était là sur votre livre. Et c'était un cadeau de mon fils quand il était au secondaire à Montréal. Il a lu votre roman « Rue » et comme beaucoup de jeunes au Québec, on a été vraiment marqués. Et en voyant votre nom sur votre livre de recettes à la librairie du coin, il a tout de suite pensé à me l'offrir en cadeau. Et cela m'a fait réfléchir à la façon dont la cuisine peut être porteuse de changements, de traditions, mais aussi un espace pour raconter les histoires. Alors, je pose cette question, est-ce que vous voyez une parallèle, si on veut, entre l'évolution d'une recette et l'évolution de toute une société?
Je vous dirais que la cuisine est vraiment le meilleur véhicule, probablement, pour transmettre le savoir-faire, mais aussi la géographie, les habitudes d'une culture. La géographie ici, c'est très simple. Vous voyez, la cuisine vietnamienne contient énormément d'herbes fraîches. Et donc, au Canada, c'est très difficile d'avoir toutes ces herbes fraîches. Vous voyez, on avait, au tout début, il y a 45 ans, quand on venait d'arriver, il y avait tout au plus, parfois, la coriandre. À l'épicerie, en fait. Et la menthe est arrivée un petit peu plus tard. Mais pour les Vietnamiens, chaque rouleau de printemps qu'on prépare, il y a à l'intérieur au moins 6 herbes différentes.
Wow!
Vous voyez? Et donc, quand on mange un rouleau de printemps vietnamien, on mange la géographie. On sait déjà que c'est un pays tropical. Hein? Donc, quand on le fait ici au Canada, on sait déjà ce qui manque.
Oui, je vois.
La chaleur. Et donc, ma mère m'expliquait, évidemment, à chaque fois qu'on mangeait, elle dit « Ah, c'est dommage, on n'a pas plus d'herbes. » Et là, elle a commencé à les faire pousser à la maison, à l'intérieur, avec des lampes chaudes et tout. Et donc, on a recréé le climat tropical pour les herbes. Et donc, pour moi, la cuisine révèle énormément les habitudes, et ne serait-ce que, vous voyez, le fait qu'on mange avec des baguettes, déjà, on traduit la vision de la culture vietnamienne sur le monde. Et je parle de la culture vietnamienne, mais plusieurs pays asiatiques, c'est-à-dire que chaque morceau de viande ou de riz doit être pris de façon très consciente, alors qu'en Occident, c'est plutôt une fourchette et un couteau. Donc, on attaque, je vous dirais, la nourriture d'une autre façon.
Oui.
On regarde la nourriture avec une certaine dominance. Alors que dans la culture asiatique, on doit presque respecter ce qu'on est en train de manger. Parce que s'il nous manque un peu d'attention, ben le riz tombe tout de suite entre les deux baguettes.
Oui.
Et pourquoi un livre de recettes est parlé des femmes vietnamiennes? C'est parce que ce sont deux fondations d'une société qu'on oublie souvent, qu'on écarte, parce qu'elles sont toujours là, parce que c'est une évidence qu'on mange, et les mamans sont toujours là, et les femmes, surtout dans une zone de conflit, les hommes sont au front, mais les femmes restent derrière et portent tout le fardeau du pays. Et donc, pour moi, c'était important de souligner le rôle des femmes et le rôle de la cuisine, qui sont fondamentaux à l'existence et au maintien d'un peuple et une culture, évidemment.
Ah oui, mais j'adore comment vous nous donnez un portrait de la cuisine chaleureuse, si on veut, et puis aussi le mélange des cultures et l'importance des femmes et les éléments de la géographie dans nos récits. Évidemment, c'est lié à votre propre arrivée comme individu, mais aussi comme membre d'une famille et de tout un groupe d'une région au monde, de votre arrivée au Canada et l'accueil chaleureux que vous avez reçu des gens de Granby. On pourrait dire même ils étaient comme les lampes chaudes pour les herbes fraîches, peut-être.
Ah oui, oui,
alors, tout à fait. Peut-être vous pourriez parler un peu sur l'importance de la participation active, si on veut, des citoyens.
Je vais prendre le temps de vraiment vous raconter l'arrivée à Granby, parce que ce moment-là, qui était très court, hein, le temps de quelques minutes, a transformé complètement, ou sinon a défini la citoyenne que je suis devenue plus tard.
Oui.
Et donc, on est arrivé à Granby sans savoir où était Granby. Oui, c'est le gouvernement évidemment. Qui nous a envoyé là. Et l'autobus est arrivé, c'était un 27 mars 1979. Il faisait encore très froid à l'époque et avec beaucoup, beaucoup de neige, contrairement à nous à aujourd'hui. Et je vous dirais que dès que l'autobus est arrivé devant l'hôtel où on devait habiter en attendant de se trouver un appartement, il y avait une mer de monde qui nous attendait. Vraiment, il y avait tellement de gens dans le stationnement. Et comme ça, tout le monde était tellement grand aux yeux de la petite Vietnamienne que j'étais. Je n'avais jamais vu autant de géants dans un même espace, vous voyez. Et en plus, les hommes, c'était la mode des grandes barbes. Et puis, il y avait de la fourrure autour du capuchon. Et non, il y avait beaucoup, beaucoup de poils, je vous dirais. Et pour la petite Vietnamienne, je n'avais pas vu autant de poils de ma vie. Oui. Et là, il y avait des petits glaçons sur la barbe et tout. Et donc, je me disais, non, mais c'est un conte de fées. C'est une forêt de géants qui était devant moi. Et dès qu'on est descendu, évidemment, le premier choc, c'était le choc thermique. C'était... La peau ne savait pas si elle avait froid ou chaud. Vous voyez, c'était la première fois. Et je vous dirais, le deuxième choc, c'est la gentillesse de ces personnes-là. On ne comprenait pas comment est-ce qu'ils pouvaient nous prendre tout de suite dans leurs bras, alors qu'on était plus que sales. Le bon mot, ce serait dégueulasse, vous voyez, parce qu'on arrivait d'un camp de réfugiés, on dormait aux abords d'une forêt, on se faisait manger par toutes sortes d'insectes, de moustiques, de fourmis, et on n'avait pas accès à l'eau. On avait peut-être 1 litre d'eau par jour pour boire, manger, se laver et tout. Et donc, tout ça s'infectait. Et donc, on avait des infections partout sur le corps, on avait des poux dans les cheveux. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'on avait en plus la diarrhée chronique parce qu'on ne pouvait pas bouillir l'eau. On avait que des brindilles pour le faire. Donc, on se savait vraiment repoussant. Et eux, ils n'ont pas hésité une seule seconde. On n'a pas ressenti l'hésitation à nous prendre dans leurs bras. Et je vous dirais, le plus beau dans tout ça, et c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu de ma vie et dans la vie en général, c'est que dans le camp, parce que bon, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait rien, donc évidemment, il n'y avait pas de miroir. Dans la première fois que je me suis revue, ce n'était pas dans un miroir, c'était dans le regard de ces gens-là. Et ils nous regardaient comme si on était des trésors qui tombaient du ciel, je vous jure. Dans leurs yeux à eux, je me suis revue pour la première fois après les 4-5 mois dans le camp de réfugiés. Et je vous dirais que c'était la première fois que je m'étais vue aussi belle. Je ne m'étais jamais vue aussi belle et je ne me suis jamais revue aussi belle. Parce qu'en un seul regard, une fraction de seconde, ils ont pu nous redonner toute l'humanité et la dignité qu'on a perdu en cours de route. Et ce moment-là, qui n'a duré que, voilà, quelques secondes, hein, a complètement changé ma vie. Parce que pour la première fois, je recevais un amour dans sa forme la plus pure, en ce sens que toutes ces personnes-là n'attendaient pas rien en retour. Je l'avais vraiment ressenti parce que c'était l'intention de toute une ville, de dire, on ne sait pas ce qu'on va faire avec ces Vietnamiens, mais on va les recevoir, puis on va s'arranger, on va apprendre à vivre ensemble. Mais d'abord et avant tout, on va tendre la main.
Mais c'est bien, puis aussi on voit comment cette transparence, cet être honnête, on ne sait pas, mais on tend la main. Et puis oui, on est confronté par quelque chose qu'on ne connaît pas. Pas nécessairement, mais il y a le lien humain, puis l'idée que, bon, avec un esprit ouvert, tout est possible.
On a été vraiment reçus comme des humains, tout de suite comme des enfants adoptés.
Oui.
Vous voyez? Et quand je vous parle de la citoyenne, ou sinon l'humain que je suis devenue, c'est que je suis tombée aussi en amour avec eux. Quand quelqu'un vous aime,
oui,
avec cette pureté-là, ben, vous vous abandonnez. Vous voulez apprendre tout ce qui est devant vous. Puis parce qu'ils parlaient québécois, mais pour moi, c'est devenu, voilà, la langue d'amour, la langue que je voulais apprendre, la langue que je voulais embrasser. Je n'avais pas besoin de loi. Je ne suis pas un enfant de la loi 101. Je suis un enfant de l'amour des gens de Granby. Et c'est pour ça que je ne pourrais jamais écrire dans une autre langue que cette langue de Granby, parce que c'était ma langue d'amour. Et quand j'écris, j'essaie seulement de partager la beauté du monde, la beauté de nous les humains, la beauté de nos forces. Alors, ça ne peut pas être dans une autre langue que cette langue d'amour, vous voyez?
C'est intéressant parce que à la commission de droit, je parle du droit et la réforme ou l'évolution du droit et pas des lois. Comme vous venez de dire, vous n'étiez pas un enfant d'une loi. Mais le droit, par contre, c'est comme une façon de gérer les communautés humaines dans le monde, pas pour interdire des choses, mais plutôt pour faire nourrir la dignité. Je me demande, Kim, comment, en tant que jeune immigrante au Canada, vous vous êtes dirigée vers une carrière en droit. Vous avez fait des études à l'Université de Montréal et êtes devenue membre du barreau du Québec en 1995. Qu'est-ce qui vous a motivée à poursuivre cette voie?
Je dois vous avouer que je ne voulais pas aller en droit, tout simplement parce que je n'avais pas de modèle. Je ne connaissais aucune personne qui était en droit. Et donc, je ne savais même pas comment on fait pour devenir avocat ou avocate ou oui.
J'adore les étudiants et les étudiantes comme ça. Parce que j'adore enseigner les gens qui arrivent sans aucune concept.
Attente.
Oui, c'est ça.
Et en fait, j'ai fait un diplôme en traduction parce que je voulais étudier les langues et évidemment, je n'avais pas la capacité ou les habiletés. Même si j'ai eu mon diplôme, je savais que je ne pouvais pas travailler comme traductrice. J'étais bien trop mauvaise et mon niveau était tellement bas. Je crois sincèrement que la faculté de lettres, le département de lettres, m'a donné un diplôme en traduction pour me mettre à la porte. Parce qu'ils m'ont donné plein de zéros et je suis restée quand même. Et donc, ils m'ont dit, la seule façon qu'elle arrête de nous faire honte, c'est de lui donner un diplôme pour qu'elle ne revienne plus jamais. Et donc, ils m'ont jetée dehors avec un diplôme.
Très bien.
Oui, et mes notes étaient tellement basses que je ne pouvais pas retourner en sciences tout de suite. Et donc, mes frères m'ont inscrite en droit parce qu'ils pensaient que c'était plus facile que je ne sais pas quoi. Et donc, ils m'ont inscrite là, tout simplement pour remonter ma moyenne. Et je ne sais pas pourquoi l'Université de Montréal m'a acceptée, malgré mes notes très basses. Je crois vraiment que c'est parce que je cochais la diversité, je vous dirais, une femme vietnamienne et tout ça. Donc, j'ai été acceptée par pure chance ou par pure folie là, de la faculté de droit. Et tout de suite, je savais que je n'allais pas pouvoir devenir avocate parce que la terminologie était nouvelle, tout était tellement difficile. Je lisais les décisions, je ne comprenais absolument rien. Mais dès la deuxième année, les grands bureaux faisaient les recrutements.
Oui.
Et moi, je suis très mouton. Je suis tout le monde. Donc, quand je voyais que tout le monde envoyait des lettres, parce qu'il n'y avait pas d'Internet, donc tout c'était des lettres sur papier et tout ça, ben j'ai fait la même chose. Et par pur hasard, sur ces 9 bureaux qui m'ont convoqué en première entrevue, il y en a 8 qui m'ont convoqué en deuxième entrevue et j'ai reçu les 8 offres. Mais on m'a dit tout de suite, à la deuxième entrevue, ils m'ont dit « Madame, vous savez que vous n'avez pas la moyenne que nous recherchons. » Et j'ai dit « Oui, mais c'est vous qui m'avez appelée, je ne sais pas. » Et ils m'ont engagée tout simplement parce qu'ils me disaient que j'étais capable de travailler 25 heures sur 24 et que j'avais un CV tellement déjanté. J'ai travaillé toutes sortes d'emplois bizarres, aucune connexion. Vous voyez, en tant qu'immigrant, on prenait tous les emplois pas possibles. Pendant l'entrevue, ils ne me posaient pas de questions en droit. Ils m'ont seulement posé des questions sur mes emplois.
Ça montre aussi comment c'est important d'être ouverte aux surprises.
Oh, la vie n'est que d'imprévus.
Oui, oui.
Et on vit dans un pays tellement parfait qu'on croit qu'on est capable de contrôler la vie.
La Commission du droit du Canada est une agence indépendante et non partisane, vouée à l'engagement de tout le monde au Canada dans l'évolution continue et dynamique du droit. La CDC offre un leadership et des conseils responsables et sensibles sur le droit, la justice et le renouvellement de l'espoir. Pour en apprendre davantage, visitez le site web de la Commission du droit du Canada ou suivez-nous sur LinkedIn et X. Et pour en apprendre davantage sur cet épisode d'Obiter et d'autres dans la série, consultez les notes d'émission.
Je vais vous inviter quand même de parler un peu de lien entre votre formation comme juriste puis le travail que vous faites dans l'écriture, raconter des récits. Comment est-ce que vous voyez les liens?
Le lien est direct. Le lien est plus que direct. En fait, le droit est tissé, je vous dirais, à l'intérieur de mon travail d'écriture parce que j'ai appris avec le droit, la concision et la précision et le poids des mots. Chaque mot joue un rôle extrêmement important. Et pas seulement les mots, la ponctuation aussi.
Oui.
Une virgule n'est pas un point-virgule. Et un point n'est pas un point-virgule. Vous voyez, tout a son sens, ou sinon, on essaie le plus possible qu'il n'y ait pas d'interprétation ou qu'il y en ait le moins possible. D'interprétation et une présentation des faits. Et je crois qu'on le dit souvent dans mon écriture, que j'évoque peut-être des émotions, mais je ne nomme jamais les émotions, ou très rarement dans mes livres. Je ne sais pas comment nommer les émotions, mais j'ai appris en droit, par contre, comment on présente les faits de façon très objective, ou sinon de plusieurs points de vue différents. Parce qu'il y a toujours plusieurs points de vue. Et le droit nous permet, ou sinon nous apprend, qu'il faut considérer tous ces points de vue. Même si on représente la partie A, on doit comprendre exactement ce que la partie B veut faire ou désire faire pour qu'on puisse négocier.
C'est sûr.
En droit corporatif, n'est-ce pas?
Oui.
Autrement, je vous dirais aussi, pour moi, un contrat est un roman de rupture. C'est tellement beau. Quand on doit rédiger un contrat, quand le contrat est bien ficelé, pour moi, c'est un bijou. Parce que dans ce contrat-là, on a prévu, oui, on raconte la rencontre entre les deux, mais on prévoit déjà tout ce que l'humain va devoir subir à travers le temps. Les désaccords, les malentendus, les maladresses. Comment est-ce qu'entre ces deux personnes, ces deux parties, ils vont régler leur maladresse, ils vont régler leur désir de rupture, ils vont régler leur désir de vengeance. Tout est déjà prévu.
C'est ça exactement, les relations, les obligations, les espoirs, les promesses, puis comment on sera protégé dans ce cas aussi. Alors ça...
Et je crois que quand un contrat est bien fait, a été discuté en long et en large, sous toutes les virgules et entre les espaces, il n'y aura pas de rupture, parce qu'on aura déjà travaillé sur tous ces défis à relever entre les deux parties. Alors, probablement, mes années en droit m'ont formée pour écrire des romans.
Non, je pense que vous avez tout à fait raison, et puis c'est fascinant pour vos lecteurs de relire peut-être vos romans, en pensant à, comme vous dites, vous nommez pas les émotions, mais vous provoquez les émotions à l'intérieur des lecteurs. Mais ça, c'est à eux et à elles à trouver et puis à exprimer peut-être.
À en être, je vous dirais, c'est chaque lecteur ou lectrice qui arrive à un texte, arrive avec son propre bagage personnel, n'est-ce pas? Avec ses références culturelles, une personne vietnamienne va lire le livre différemment qu'une lectrice française ou un lecteur canadien. Quand je vais en France, je parle aux gens très différemment parce que la plupart des lecteurs ou lectrices ont une relation quelconque déjà avec le Vietnam, à travers un grand-père, un grand-oncle, voilà. Et donc, chaque pays a une histoire différente. Je suis allée en Bulgarie et les Bulgares ont lu le livre en retrouvant plein de références avec leurs amis vietnamiens qui avaient été envoyés En Bulgarie, pour payer la dette après la guerre, pendant le communisme, avant que le mur ne tombe en 89.
Ça revient peut-être dans tout ça, un contrat pas entre deux parties, mais plutôt un contrat collectif, si on veut, de la société. Mm-hmm. Et ça, c'est lié encore au droit, puis à l'évolution du droit, puis comment on a pas seulement l'occasion, mais aussi la responsabilité de participer dans cette évolution.
Oui, et peut-être qu'un roman est loin du droit, mais en même temps, je crois qu'un jeune, par exemple, qui très souvent, quand je fais des rencontres dans les écoles, les adolescents vont me poser beaucoup de questions sur l'identité.
Oui.
Qui sommes-nous? Qui es-tu? Est-ce que tu es canadienne? Est-ce que tu es québécoise? Est-ce que tu es vietnamienne? Bon, en fait, il y a beaucoup de questions sur l'identité et en même temps, de comprendre que l'identité peut être multiple. Et donc, eux-mêmes, ils peuvent se projeter cette possibilité d'être multiple. Donc, il y a, selon moi, parfois, ils me le disent, que par la suite, ils sont moins déchirés. Ils n'ont pas à choisir. Parce que je l'ai dit, vous n'avez pas à choisir. Vous pouvez être 100% vietnamienne et 100% québécoise, dans mon cas, et 100% canadienne anglophone. Même si je n'ai jamais habité en dehors du Québec, je vous dirais, c'est parce que j'aime les valeurs de mon pays. Alors, pour moi, je suis 100% canadienne, tout simplement parce que j'aime mon pays. Inconditionnellement. Il n'y a personne qui nous oblige de choisir. Et je me suis dit, à partir de là, eux, ils vont comprendre le droit, par exemple, par la suite, qui a dit, tout citoyen doit recevoir le même traitement, est la même personne devant la loi. Et là, ils vont comprendre toute la complexité de l'identité multiple. Et on devient empathique envers les autres aussi, qui sont peut-être différents de nous parce qu'ils ont d'autres cultures. Donc aujourd'hui, il n'y a personne qui se pose des questions quand quelqu'un mange un shish taouk. C'est presque trop banal même.
Hein? Oui. Oui, oui.
Mais donc, je reviens à la cuisine, mais la cuisine est la première porte d'ouverture sur cette multiplicité-là. À partir de cette compréhension-là, je crois que là, on comprend mieux l'intention de la loi, de notre constitution, de notre charte. Et là, soudainement, on s'y adhère et on protège.
Exact. Et puis, vous tissez dans une façon tellement convaincante puis inspirante l'identité multiple de chaque individu et aussi l'espoir. Peut-être on va terminer là avec une dernière invitation de juste parler un petit peu de ce que vous trouvez dans notre monde qui vous donne de l'espoir.
Je pense que l'espoir est difficile parce que ma mère disait toujours que vivre, c'est l'exercice le plus difficile que tu vas faire dans la vie. Mais Guillermo del Toro, le réalisateur mexicain, a parlé une fois dans une interview que l'optimisme est un choix et c'est un choix brave. C'est un choix radical, c'est un choix rebelle parce qu'il est tellement difficile. C'est tellement plus facile de ne voir que le côté sombre du quotidien, de tout le poids qu'on doit porter. Et donc, comment faire pour voir l'optimisme? Et si mon amoureux était ici, il vous dirait que vraiment, je pratique la discipline de la beauté. Et le mot beauté ici est très large, en ce sens où ne serait-ce que la gentillesse. Hein? Le fait d'arrêter son mouvement pour garder la porte pour quelqu'un. Il faut s'arrêter. Il faut attendre que la personne arrive, au lieu de juste rentrer puis continuer. Donc, c'est un combat tous les jours pour être gentil. Ça nous coûte quelque chose. Et donc, l'optimisme, pour moi, c'est aussi une discipline. On doit absolument chercher dans cette noirceur-là une lumière et faire grandir cette lumière-là. Et notre tâche à nous, c'est de faire une deuxième lumière, d'offrir une plus grande lumière. Et si chacun en faisait cet exercice-là, tout le monde va avoir de l'espoir ensemble. Donc, je ne crois pas qu'on puisse aller chercher de l'espoir. mais il faut qu'on en donne, qu'on soit l'espoir pour soi-même, mais aussi pour les autres. Et je crois que c'est possible. Peut-être parce que j'ai été injectée de cet amour, vous voyez, tellement pur que j'en ai assez pour redonner à tout moment. Je pense que je n'aurai pas assez d'une vie pour redonner ce que j'ai reçu. Et donc, oui, l'espoir vient de cette discipline, je crois, de continuer à croire au champ des possibles. Que oui, on avance peut-être pas beaucoup. J'ai l'impression qu'on avance un peu comme les cheveux. C'est-à-dire qu'on ne voit jamais que les cheveux poussent. Mais à un moment donné, il faut aller chez le coiffeur parce que, oh, soudainement, ils sont devenus trop longs. Et donc, on ne peut pas voir l'impact de ce qu'on fait immédiatement. Mais il faut y croire que la petite lumière qu'on allume, la petite aiguille qu'on a réussi à faire bouger, a bougé. Même si on ne le voit pas, même si on ne le ressent pas. Mais on va le voir à un moment donné.
Kim Thuy, ce fut un plaisir de vous recevoir dans ce balado. Merci mille fois pour votre participation.
Merci beaucoup.
Aujourd'hui, nous avons eu le grand plaisir d'accueillir Kim Thuy, qui nous a rejoint en direct de Montréal. Voilà pour cet épisode d'Obiter, un projet de la Commission du droit du Canada. L'équipe d'Obiter est composée du producteur Brian Peebles et de l'assistant éditorial David Dastou. Frédéric Sauvé est notre productrice associée et Farah Akhtar, notre chef de projet. La conception sonore et la réalisation de ce balado ont été assurées par Dominique Girard. Notre technicien est Wayne Gisbrecht. Obiter est produit par Cascade Communications. Je suis l'animatrice Shauna Van Prague. Merci de nous avoir écoutés.